Allô, c'est Sylvain dans ta radio. Le Prix du Gros est fier de commanditer et surtout de féliciter Michel Villeneuve pour l'ensemble de sa carrière en Formule 1.
Catherine Le Matin. Voici Michel Villeneuve. Que la mort ici se
lève. Bon matin, Michel.
Salut les boys. Est-ce que j'ai bien compté? Une, deux... Trois voix d'hommes pour remplacer la Catherine.
Un trio, Michel.
Oh, un trio pour remplacer madame. ça coûte cher.
Non, justement, non. Le trio est toujours là.
C'est ça, c'est son salaire séparé en trois.
Ah, ben c'est quand même raisonnable.
Michel, t'as regardé un match de hockey qui a été agréable hier, hein?
Un match de hockey de qualité, oui. Et je disais pas plus tard qu'hier matin, j'avais hâte de voir comment le Canadien allait se comporter face à quatre matchs baromètres, parce que avec les Jets, il y a Toronto, Tampa Bay et Nashville qui s'en viennent. Et je dois dire que le Canadien hier a été drôlement impressionnant. Le Canadien n'a pas battu les Jets hier. Le Canadien a humilié les Jets de Winnipeg à ce point-là. Lorsque tu réussis à obtenir pas moins de 50 tirs au but, et un peu plus contre une équipe de cette qualité-là, ça te donne une idée de la façon dont le Canadien s'est battu hier. Le Canadien qui a été impressionnant dans tous les départements. Je suis incapable de pointer un seul joueur qui a connu un match ordinaire tellement le Canadien a brillé de tous ses feux. C'était vraiment, à mon avis, le meilleur match de la saison du Canadien.
Et quelle soirée, encore une fois, de Jonathan Drouin, hein?
Depuis qu'on lui a bossé à calotte... Le voir jouer hier, il y a des joueurs qui savent se lever dans les grands moments et qui jouent avec émotion. Et de temps en temps, on se demandait si le côté émotif de Drouin n'était pas laissé à la maison lorsqu'il se dirigeait vers le Centre Bell. Mais force est d'admettre que depuis trois parties, on voit le Drouin qu'on a espéré voir depuis son acquisition du Lightning de Tampa Bay. Il était rapide, non seulement lorsqu'il avait la rondelle, il était aussi impliqué et intéressé lorsqu'il ne l'avait pas. Et il a fait vraiment la différence, et c'est l'éclosion d'un trio. Gallagher, Drouin, et surtout Philippe Dano, encore une fois, le héros méconnu. C'est lui qui ne semble pas avoir beaucoup de reconnaissance de la part du public du Centre Bell. Il n'y a pas d'élan d'amour dans sa direction, mais il fait tout bien. Puis il se sacrifie pour le club, et lorsqu'on le met en position... où il doit contribuer à l'attaque. Écoute, il va franchir, je pense, facilement le cap des 60 points cette saison. Pour un joueur qui était supposé être transformé seulement dans des missions défensives, le voilà qu'il retrouve une touche d'attaque, une touche offensive, tout en ne sacrifiant pas la défensive parce qu'il est utilisé en désavantage numérique et toujours contre le trio adverse. Chapeau à Philippe Dano, et j'ai été... beaucoup satisfait hier de voir la façon dont Victor Mété s'est débrouillé. Parce qu'écoute, les Jets, ils sont gros.
Ouais.
Ils sont pesants, ils patinent. Mais Victor Mété semblait avoir trois vitesses d'avance. Hier, sur les joueurs des Jets, il sortait la rondelle. C'est le joueur qui sort la rondelle avec le plus de facilité. Parce qu'il est pas gros. Il va se faufiler dans une petite ouverture. Et même s'il réussit pas à marquer de but, on a tout ça qui marque. Mais sa principale qualité... c'est que lorsqu'il y a la rondelle, il la perd rarement. Puis s'il n'est pas capable de la remettre à un coéquipier, il la sort rapidement de son territoire. Je pense que la première affaire pour le Canadien, c'est de sortir de ta zone vite. Après ça, on va s'organiser.
Il est encore jeune, Mété, mais est-ce que ça pourrait être, tu sais, on cherche tout le temps, on parle tout le temps de ce fameux défenseur gaucher-là là, qui pourrait aider le Canadien, là, entre autres. C'est sûr qu'il joue aussi avec Shea Weber, ça aide, mais est-ce que justement, par sa rapidité, ça pourrait être le défenseur gaucher, là, j'allais dire, d'avenir pour le Canadien? Là.
Mais écoute, il aide Shea Weber. On l'a vu, Shea Weber, lorsque ça devient un petit peu plus vite, là, les pensures ne tournent pas aussi rapidement. On l'a vu dans le match contre les Oilers d'Edmonton, mais heureusement, ce ne sont pas tous les clubs qui jouent comme ça, et sûrement pas les Jets hier soir, même si c'est une équipe qui est connue pour sa rapidité. Il faut que tu sois complémentaire. Si tu amènes un gars défensif, physique, avec Weber, c'est pas complémentaire, ça. Dans le cas de Mété, oui, il est moins physique, mais il réussit à... il coupe beaucoup de jeux avec son bâton... Il est très habile pour sortir la rondelle de son territoire, ce qui n'est pas le cas de Weber. Weber va faire une bonne passe, mais la passe est un petit peu plus compliquée, là. Il prend pas ça, lui. Il va avec la solution la plus simple, qui est sûrement la plus économique, puis qui est la moins dangereuse défensivement. Mais dans le cas de Mété, il va générer plus d'attaques en partant de sa zone. C'est la différence. Mété génère de l'attaque en partant de son territoire, alors que Weber génère de l'attaque quand il est installé de l'autre bord, puis qui prend un lancer. Mm-hmm. Pierre, on l'a vu, il y a quoi, 9 buts en 30 quelques parties, là. C'est une contribution extraordinaire à l'attaque du Canadien. Non, honnêtement, là, le Canadien a passé ce premier test-là et le défi, ça sera samedi.
Oui, parce que demain...
Dans un match contre Toronto, c'est ça.
Oui, contre Toronto demain, puis après ça, l'autre semaine, tu vas avoir Nashville, puis tu vas avoir le Lightning aussi, Michel.
Mais contre Toronto, pour l'ensemble des joueurs canadiens, il y a toujours cette pression-là de Hockey Night in Canada samedi soir. Mm. Ben, la tradition est encore là. C'est le match principal au pays. Tu veux bien paraître devant tes chums qui te regardent partout à travers le Canada. Ce sera une autre belle occasion pour le Canadien de prouver où il est rendu. C'est intéressant de voir où le Canadien est rendu à la maison. Après ça, il va falloir copier la même recette lorsqu'on va jouer à l'étranger. Mm-hmm. Quand on va jouer à Winnipeg, quand on va jouer à Toronto, quand on va jouer à Tampa Bay, le Panageville, comme ce sera le cas. Là, ça va être intéressant de voir si le Canadien est capable de servir la même médecine à l'adversaire. Mais comme le disent la plupart des observateurs, et je suis de ceux-là, c'est un match. Pas certain qu'on est capable de reproduire ça dans une série 4-7, mais pour le moment, il faut se réjouir de ce qu'on a parce que on n'est pas rendu encore à la formule 4-7. On est rendu, c'est des matchs différents chaque soir, mm-hmm. l'adversaire est différent. Puis le Canadien s'en tire bien. Tu veux qu'on fasse.
Oh, oui,
le Canadien est là.
Puis c'est le fun, justement, de voir jouer l'équipe. Donc, demain, à surveiller contre les Leafs de Toronto. Tu veux nous parler de baseball? J'allais dire un grand du baseball. Oui, c'est un grand du baseball. C'est sûr que ceux qui se souviennent de lui comme gérant des expos, c'était la fin des expos à Montréal. C'est un moins bon souvenir, mais Frank Robinson a marqué l'histoire du baseball.
Écoute, je me déguise un peu en croque-mort cette semaine. C'est le troisième décès que je commente en trois jours. Là. J'ai hâte qu'on change de registre. Sauf que dans le cas de Frank Robinson, c'est une statue du baseball. Frank Robinson a autant brillé à l'intérieur du losange qu'à l'extérieur. Hey, c'était tout un sacré joueur de baseball. Écoute, il a été nommé la recrue de l'année avec les Reds de Cincinnati. Il a gagné le titre de joueur le plus utile à son équipe avec les Reds. Et alors qu'on le croyait fini, après 10 ans dans la Ligue majeure, le propriétaire de l'équipe, Bill DeWitt, que j'ai connu par la suite parce qu'il était avec sa famille propriétaire des Stingers de Cincinnati dans la MH, était tanné de voir Robinson qui travaillait bien fort pour le droit des Afro-Américains dans la société américaine. Et Bill DeWitt était reconnu pour ne pas avoir une grande sympathie pour le mouvement d'ouverture des Américains vis-à-vis les joueurs et la population noire. Donc, il lui dit, il y a 30 ans, là, il venait de connaître une saison de 33 circuits puis 113 points produits. Il a dit, il y a 30 ans, je pense qu'il est fini, on va l'échanger aux Orioles de Baltimore. Quand tu veux faire mal pareil quelqu'un, tu fais ce que Frank Robinson a fait. Il est arrivé à Baltimore, il a gagné la triple couronne.
Ouais.
C'est-à-dire, il a maintenu la meilleure moyenne 316. Il a produit le plus de points 122. Puis il a gagné le plus de circuits 149. Puis il a marqué 122 points. Puis il a conduit les Orioles de Baltimore à la Série mondiale. C'était une bonne façon, ça, de fermer le clapet à Bill DeWitt qui a mal paru là-dessus. Et non seulement ça, il a terminé sa carrière avec les Indiens Cleveland et à sa dernière année, il est devenu le joueur et gérant de l'équipe. On lui a dit, peux-tu prendre 20 000 piastres de plus pour terminer la saison comme gérant? Il l'a fait. Il a eu du succès. Il a eu du succès un peu partout par la suite. Il est devenu une des figures dominantes du baseball majeur. Et c'est à ce titre-là qu'on l'a envoyé à Montréal pour fermer les livres. Lorsque les expos étaient en tutelle, on a dit à Frank Robinson, t'es un homme de confiance, tu vas aller gérer ça, tu vas t'organiser, pourquoi qu'on fasse trop de vagues avec ça? Il est arrivé ici comme un gars qui s'amène d'un bureau pour fermer la shop.
Ouais.
OK? Fait que tu pouvais pas avoir une très grande sympathie pour un gars comme ça. Il vient fermer les livres. Sauf que Au fur et à mesure qu'il a dirigé les expos, on dirait qu'il a laissé son habit d'administrateur un petit peu de côté pour revêtir son uniforme d'homme de baseball. Puis c'est là qu'on l'a, on l'a découvert un peu plus, il était un peu plus sympathique, mais il pouvait pas gagner ici à Montréal parce que c'était dans une situation qui était perdante. Sûrement pas, on n'avait sûrement pas réuni des conditions gagnantes pour Frank Robinson lorsqu'il s'est amené avec les expos, et c'est pour ça que le souvenir est mi-figue, mi-raisin pour les amateurs de baseball du Québec, mais je suis certain que si on avait fait un sondage aujourd'hui au Québec, en se levant ce matin, c'est à ce qu'on avait demandé, quel fut le dernier gérant de l'histoire des expos. Je suis pas certain qu'il y aurait plus que 10% des gens qui auraient répondu, qui auraient obtenu la bonne réponse.
Non, c'est vrai. Puis, c'est comme tu dis, c'est une période, je pense qu'on aime autant pas se souvenir. Là.
Non, mais je dois dire que Frank Robinson a été une des grandes figures du baseball, à tous les niveaux. Non seulement comme joueur, quand tu gagnes, c'est le seul joueur qui a gagné le titre de joueur le plus utile à son club dans le baseball majeur. Et à cette époque-là, je pense que ça avait beaucoup plus de signification que ça ne l'est qu'aujourd'hui.
Puis sais-tu, Michel,
parce qu'aujourd'hui, c'est un concours de popularité plus qu'autre chose, alors que ce temps-là, il fallait que tu te gagnes sur le terrain.
Et juste pour terminer là-dessus, quand on parle justement le dernier gérant dont vous vous souvenez avec les expos, j'ai l'impression que la majorité répondrait Philippe Alou.
Oui, et c'est le seul nom qui vient. Il y a Gene Mock. Quand tu parles de gérant des expos, tu penses à Gene Mock, tu penses à Dick Williams, tu penses un peu à Jim Fanning parce que c'est lui qui les a amenés le plus loin.
Ouais.
Et le plus grand nom de tous, c'est celui de Philippe.
Oui, c'est un petit peu Buck Rogers.
Oui, Buck Rogers, mais tu sais, un peu plus dans un peu plus derrière, parce que Buck avait une belle personnalité, mais il n'y a pas eu autant d'impact que les noms que je t'ai nommés précédemment.
Hey, Michel.
Oui.
J'allais dire, oui, termine ta phrase.
Ben oui, parce que en fin de semaine, on pensait que la saison de football s'était terminée dimanche par un spectacle plate avec le Super Bowl. Mais pour les vrais maniaques, une des deux nouvelles ligues de football prend son envol. Elle est parrainée par la NFL, la AAF.
Oui.
En fin de semaine, il y a 8 clubs. Puis le premier match est disputé à CBS samedi soir. Je vais aller jeter un petit coup d'œil.
OK.
Pour voir à quoi ça ressemble. Sais-tu, je vais voir le calibre, est-ce que ça se compare à celui de la Ligue canadienne, parce que n'oublions pas que la Ligue canadienne va être affectée dans son recrutement par la performance des deux ligues professionnelles qui voient le jour aux États-Unis, parce qu'il y a plusieurs joueurs qui décidaient de venir jouer au Canada lorsque les portes de la NFL ne s'ouvraient pas ou ne s'ouvraient plus. Ils sont décidés d'aller dans ces deux ligues-là. Qu'est-ce qui va rester pour la Ligue canadienne? J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble samedi.
Ben écoute, on en reparlera lundi, Michel.
Allez, mettez vos caleçons en fin de semaine.
Ouais.
Vos long johns.
Ouais.
Un petit peu de poivre dans un sac de plastique pour tes pieds. Tu te rappelles, Serge, lorsqu'on était jeunes, on allait patiner dehors puis il faisait fret. On se mettait du poivre dans nos bas.
Ouais,
on mettait un petit sac de plastique pour garder ça au chaud. Oh!
Puis on va aller à Saint-Tite assister à la classique hivernale, Michel.
Est-ce que tu y vas, cheval?
J'y vais, je vais y aller en auto. Hein? Non, mon cheval n'est pas en forme ces temps-ci.
T'aurais pu monter en carriole, tu sais, avec des briques chaudes dans le fond, là, puis des grosses couvertures, là, puis assis avec dans une belle carriole. Je t'aurais vu avec la Catherine.
Mais je me serais pas vu, moi, Michel. Hey, bonne fin de semaine!
Okay. Hey, faites attention à vous autres, puis pour les deux autres voix qui se sont tues durant mon intervention, je leur souhaite une belle journée.
Ben, tout le monde t'attend. Hey, merci, Michel.
Salut, bye.
Salut, bye.